la guerre. C'est la guerre en Algérie et c'est France Fanon qui nous parle. France Fanon est née à Fort-de-France, en Martinique, en 1925, dans une famille de la petite bourgeoisie. Très jeune, il va s'engager dans les forces gaullistes et démobilisé, il va revenir en Martinique pour passer son bac dans un lycée où Aimé Césaire va être enseignant. Ensuite, il va partir à Lyon faire des études de médecine où il va se spécialiser en psychiatrie. Pendant ses années d'études, il va s'intéresser à la philo, à l'anthropologie, au théâtre, à l'histoire. Et il va s'engager dans la mouvance anticolonialiste, notamment en contribuant à la rédaction d'un petit périodique, Tam Tam, destiné aux étudiants originaires des colonies. Il y va faire une critique du racisme dans le milieu intellectuel parisien. Et il va écrire plusieurs articles sur la condition de l'ouvrier nord-africain, exilé, souffrant d'être un homme mort quotidiennement. Une fois qu'il a fini ses études, en 1953, il est nommé à l'hôpital psychiatrique de Blida, en Algérie. À ce moment-là, il a déjà écrit son premier livre, Peau noire, masque blanc. En arrivant en Algérie, il va découvrir dans sa peau la réalité coloniale. Dans l'hôpital où il exerce, soutenu par un personnel soignant plutôt engagé politiquement, il va mener une véritable révolution psychiatrique qui s'oppose complètement à l'école d'Alger qui prône grosso modo le primitivisme et la bestialité des indigènes. Il va introduire ce qu'on appelle la social thérapie, où il va essayer de bouleverser de fond en comble le rapport des soignants aux aliénés, entre guillemets, et surtout des Européens aux indigènes, entre guillemets. Cette entreprise de décolonisation du milieu et de la discipline de la psychiatrie va faire grandir sa réputation dans la région. Il va être contacté par des résistants nationalistes en lien avec des combattants qui ont pris un maquis près de Blida. Et on va lui demander de prendre en charge des maquisards souffrant de troubles psychiques. C'est ainsi que, de par son engagement politique et la pratique de sa psychiatrie, Fanon va s'engager dans la lutte des Algériens pour leur indépendance. Il va rentrer en contact avec les officiers de l'armée de libération nationale et avec la direction politique du FLN. Jusqu'à ce qu'en 1956, la rupture est consommée. Il démissionne de son poste de médecin de psychiatre et il est expulsé d'Algérie. Il rentre en France pendant quelques temps, juste avant de rejoindre le FLN à Tunis, où il va rejoindre l'équipe du journal du FLN, El Moujahid. À partir de 1959, il va devenir l'ambassadeur itinérant du FLN en Afrique noire. Il va se rendre au Ghana, au Cameroun, à Angola, au Mali, jusqu'à ce qu'en 1960, il découvre qu'il est atteint d'une leucémie. Il lui reste un an à vivre. Il va essayer de se faire soigner à Moscou, puis à Washington, où il va mourir, non sans avoir publié son dernier bouquin, Les damnés de la Terre, en 1961, du coup quelques mois avant l'indépendance de l'Algérie. Il avait 36 ans. L'an 5 de la Révolution algérienne est publié en 1959. Dès que les livres sont publiés, il est interdit, sous le chef d'inculpation d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. C'est d'usage pour la plupart de ses écrits. Dans l'introduction, Fanon va nous parler de manière assez déterminée de ce qu'il voit et de ce qu'il sent à partir de son vécu, de la situation de l'Algérie. Il nous dit « Il y a en Algérie, en ce qui concerne le peuple algérien, une situation irréversible. Sur la terre algérienne est née une nouvelle société. Les hommes et les femmes d'Algérie, aujourd'hui, ne ressemblent ni à ceux de 1930, ni à ceux de 1954, ni déjà à ceux de 1957. » La vieille Algérie est morte. La France proclame aujourd'hui qu'elle n'abandonnera jamais le Sahara et ses ressources. De tels arguments n'ont évidemment aucune valeur pour l'Algérien. La forme et le contenu de l'existence nationale existent déjà en Algérie et aucun retour en arrière ne saurait être envisagé. Alors que dans beaucoup de pays coloniaux, c'est l'indépendance acquise par un parti qui va informer progressivement la conscience nationale diffuse du peuple, en Algérie, c'est la conscience nationale, les misères et les terreurs collectives qui rendent inéluctable la prise en main de son destin par le peuple. L'Algérie est virtuellement indépendante. Les Algériens se considèrent déjà souverains. Il ne reste à la France qu'à le reconnaître. La nation algérienne n'est plus dans un ciel futur. Elle est au centre même de l'homme nouveau algérien. Il y a une nouvelle nature de l'homme, une nouvelle dimension à son existence. La thèse qui veut que se modifient les hommes dans le même moment où ils modifient le monde n'aura jamais été aussi manifeste qu'en Algérie. Cette épreuve de force ne remodèle pas seulement la conscience que l'homme a de lui-même, l'idée qu'il se fait de ses anciens dominateurs ou du monde. Cette lutte, à des niveaux différents, renouvelle les symboles, les mythes, les croyances, l'émotivité du peuple. Nous assistons en Algérie à une remise en marche de l'homme et de la femme. Dans le premier chapitre, qui s'intitule « L'Algérie se dévoile », Fanon nous explique à quel point dans la société coloniale, le statut de la femme algérienne est un enjeu central qui va déterminer à la fois les méthodes de domination mises en place par l'occupant, ainsi que les actions de résistance de l'occupé. Le pouvoir colonial a compris que pour atteindre sa victoire, il faut gagner la femme algérienne. Il est obsédé par l'idée que c'est la femme algérienne qui va être l'alliée dans son œuvre de destruction culturelle, la voie privilégiée par laquelle la culture occidentale va pénétrer la société autochtone. Et c'est ainsi que l'administration coloniale va déployer avec acharnement une entreprise de dévoilement des femmes algériennes. L'administration précise. Si nous voulons frapper la société algérienne dans sa contexture, dans ses facultés de résistance, il nous faut d'abord conquérir les femmes. Il faut que nous allions les chercher derrière le voile où elles se dissimulent et dans les maisons où les hommes les cachent. C'est ainsi que dans le programme colonialiste, c'est à la femme qui va revenir le devoir, la mission historique, de faire basculer l'homme algérien. Convertir la femme, la gagner aux valeurs étrangères, l'arracher à son statut, c'est à la fois conquérir un pouvoir réel sur l'homme et posséder les moyens efficaces de déstructurer la culture algérienne, de désarmer la rébellion. Fanon, pour nous parler de cette obsession de l'occupant sur le mythe de la femme algérienne, nous dit « Chaque voile rejetée découvre aux colonialistes des horizons jusqu'alors interdits et leur montre, morceau par morceau, la chair algérienne mise à nu. L'agressivité de l'occupant, donc ses espoirs, sortent découplés après chaque visage découvert. » Chaque nouvelle femme algérienne dévoilée annonce à l'occupant une société algérienne au système de défense en voie de dislocation, ouverte et défoncée. Chaque voile qui tombe, chaque corps qui se libère de l'étreinte traditionnelle du haïk, le voile, chaque visage qui s'offre au regard hardi et impatient de l'occupant, exprime en négatif que l'Algérie commence à se renier et accepte le viol du colonisateur. La société algérienne, avec chaque voile abandonnée, semble accepter de se mettre à l'école du maître et décider de changer ses habitudes sous la direction et le patronage de l'occupant. Face à cette offensive, le FLN va de son côté s'attaquer à ce qu'il considère comme la construction d'un mythe, fondé sur les analyses scientifiques des soi-disant spécialistes des affaires indigènes, des sociologues, des islamologues, des juristes, qui vont décrire la femme algérienne à la fois comme l'esclave de l'homme et comme souveraine matriarche du foyer. Dans un texte paru en 1957 dans la revue Résistance algérienne, le FLN postule « Il n'y a pas une occupation du terrain et une indépendance des personnes. C'est le pays global, son histoire, sa pulsation quotidienne qui sont contestées, défigurées. Dans ces conditions, la respiration de l'individu est une respiration observée, occupée. C'est une respiration de combat. Dès lors, les valeurs réelles de l'occupé acquièrent rapidement l'habitude d'exister clandestinement. Face à l'occupant, l'occupé apprend à se cacher, à ruser. Au scandale de l'occupation militaire, il oppose un scandale du contact. Toute rencontre de l'occupé avec l'occupant est mensonge. » L'Algérienne, comme ses frères, avait minutieusement monté des mécanismes de défense qui lui permettent aujourd'hui de jouer un rôle capital dans la lutte libératrice. Et d'abord le fameux statut de l'Algérienne, sa prétendue claustration, sa radicale mise à l'écart, son humilité, son existence silencieuse, confinant à une quasi-absence. Et la société musulmane, entre guillemets, qui ne lui fait aucune place, amputant sa personnalité, ne lui permettant ni épanouissement ni maturité, la maintenant dans un perpétuel infantilisme. De telles affirmations, éclairées par des travaux scientifiques, entre guillemets, reçoivent aujourd'hui la seule contestation valable, l'expérience révolutionnaire. La société algérienne se révèle n'être pas la société sans femmes que l'on avait si bien décrite. Côte à côte avec nous, nos sœurs bousculent un peu plus le dispositif ennemi et liquident définitivement les vieilles mystifications. Afin de tenir tête à l'occupation, à l'occupant, c'est dans la manière d'habiter leur corps, d'habiter leur territoire, leur symbole, dont celui du voile, que vont se cristalliser les pratiques de résistance des femmes pendant la Révolution. Pendant la période où cette domination française n'était pas encore contestée, la tendance était à fuir l'occupant. La femme, surtout celles qui habitaient les villes, en fait, se retranchaient dans l'espace privé, dans des espaces restreints. Sa mobilité était réduite, ses déplacements étaient connus, répertoriés et réglés. Mais c'est petit à petit, alors qu'elle va commencer à devenir une actrice de l'insurrection, que la femme va devenir prioritairement un agent de liaison. À ce sujet, Fanon nous dit: La femme, porteuse de tract. De façon concertée, prise dans l'étau du conquérant. En dehors des femmes de ménage employées chez le conquérant, celles qu'indifféremment le colonisateur prénomme les Fatma, l'Algérienne, la jeune Algérienne surtout, s'aventure peu dans la ville européenne. Les déplacements ont presque tous lieu dans la ville arabe, et même dans la ville arabe, les déplacements sont réduits au minimum. L'Algérienne, dans la ville européenne, doit vaincre une multiplicité d'interdits internes, de craintes, d'émotions. Elle doit à la fois affronter le monde essentiellement hostile de l'occupant et les forces de police mobilisées, vigilantes, efficaces. L'Algérienne, à chaque entrée dans la ville européenne, doit remporter une victoire sur elle-même, sur ses craintes infantiles. Elle doit reprendre l'image de l'occupant, fichée quelque part dans son esprit et dans son corps, pour la remodeler, amorcer le travail capital d'érosion de cette image, la rendre inessentielle, lui enlever de sa vergogne, la désacraliser. Porteuse de messages, d'ordres verbaux compliqués, appris par cœur quelquefois par des femmes sans aucune instruction, telles sont quelques-unes des missions qui sont confiées à la femme algérienne. Mais aussi, elle doit faire le guet, une heure durant, souvent davantage, devant une maison où a lieu un contact entre responsables. Au cours de ces minutes interminables, il faut éviter de rester en place, car on attire l'attention. Éviter de trop s'éloigner, car on est responsable de la sécurité des frères à l'intérieur. Cette jeune Algérienne dévoilée qui fait le trottoir est très souvent remarquée par des jeunes. Réflexion désagréable, obscène, humiliante. Quand de telles choses arrivent, il faut serrer les dents, faire quelques mètres, échapper aux passants qui attirent l'attention sur vous, qui donnent aux autres passants l'envie soit de faire comme eux, soit de prendre votre défense. Ou bien, c'est avec 20, 30, 40 millions que la femme algérienne se déplace, portant l'argent de la révolution dans son sac ou dans une petite valise. Cet argent qui servira à subvenir aux besoins des familles de prisonniers ou à acheter des médicaments et des vivres à l'intention des maquis. Mais c'est à partir de 1956 que son activité prend des dimensions véritablement gigantesques. Devant répondre coup pour coup au massacre des civils algériens dans les montagnes et dans les villes, la direction de la révolution se voit acculée si elle ne veut pas voir la terreur prendre au ventre le peuple, à adopter des formes de lutte jusque-là écartées. On n'a pas suffisamment analysé ce phénomène. On n'a pas suffisamment insisté sur les raisons qui amènent un mouvement révolutionnaire à choisir cette arme qui s'appelle le terrorisme. Ce sont d'abord les policiers et les lieux de réunion des colonialistes, cafés à Alger, Oran, Constantine, qui seront visés. Dès lors, l'Algérienne s'enfonce de façon totale, avec opiniâtreté dans l'action révolutionnaire. Porteuse de revolvers, de grenades, de centaines de fausses cartes d'identité ou de bombes, la femme algérienne dévoilée évolue comme un poisson dans l'eau occidentale. Les militaires, les patrouilles françaises lui sourient au passage. Des compliments sur son physique fusent ça et là. Mais personne ne soupçonne que dans ses valises se trouve le pistolet mitrailleur qui, tout à l'heure, fauchera 4 ou 5 membres d'une des patrouilles. Il faut revenir à cette jeune fille, hier dévoilée, qui s'avance dans la ville européenne sillonnée de policiers, de parachutistes, de miliciens. Elle ne rase plus les murs comme elle avait tendance à le faire avant la Révolution, appelée constamment à s'effacer devant un membre de la société dominante. Les épaules de l'Algérienne dévoilée sont dégagées. La démarche est souple et étudiée. Ni trop vite, ni trop lentement. Les jambes sont nues, non prises dans le voile, livrées à elle-même. Et les hanches sont à l'air libre. Le corps de la jeune Algérienne, dans la société traditionnelle, lui est révélé par la nubilité et le voile. Le voile recouvre le corps et le discipline, le tempère. Au moment même où il connaît sa phase de plus grande effervescence, le voile protège, rassure, isole. Il faut avoir entendu les confessions d'Algériennes ou analysé le matériel onirique de certaines dévoilées récentes pour apprécier l'importance du voile dans le corps vécu de la femme. impression de corps déchiqueté, lancé à la dérive. Les membres semblent s'allonger indéfiniment. Quand l'Algérienne doit traverser une rue, pendant longtemps, il y a erreur de jugement sur la distance exacte à parcourir. Le corps dévoilé paraît s'échapper, s'en aller en morceaux. Impression d'être mal habillé, voire d'être nu. Incomplétude ressentie avec une grande intensité. Un goût anxieux d'inachevé. Une sensation effroyable de se désintégrer. L'absence du voile altère le schéma corporel de l'Algérienne. Il lui faut inventer rapidement des nouvelles dimensions à son corps. Il lui faut se créer une démarche de femme dévoilée dehors. Il lui faut briser toute timidité, toute gaucherie, car on doit passer pour une Européenne tout en évitant la surenchère, la trop grande coloration, ce qui retient l'attention. L'Algérienne, qui entre nue dans la ville européenne, réapprend son corps, le réinstalle de façon totalement révolutionnaire. Cette nouvelle dialectique du corps et du monde est capitale dans le cas de la femme.
Yaratgan la ilaha illallah bulbul qilib sayratgan la ilaha illallah yakka yagona Allah la ilaha illallah yakka yagona Allah La ilaha illallah, mihribanimiz Allah. La ilaha illallah, mihribanimiz Allah. La ilaha illallah. Bizga Qur'onni bergan, la ilaha illallah. Qaymog'unonni bergan La ilaha illalloh Tinchlik bo'lsin doimo La ilaha illalloh Shunda asraydi Alloh
À partir de 1957, le voile réapparaît. Les missions deviennent en effet de plus en plus difficiles. L'adversaire, c'est maintenant certaines militantes ayant parlé sous la torture, que des femmes très européanisées d'aspect jouent un rôle fondamental dans la bataille. De plus, certaines européennes d'Algérie sont arrêtées, et c'est le désarroi de l'adversaire qui s'aperçoit que son propre dispositif s'écroule. La découverte par les autorités françaises de la participation d'Européens à la lutte de la libération fut l'une des dates de la révolution algérienne. À partir de ces jours, les patrouilles françaises interpellent toute personne. Européens et Algériens sont également suspects. Les limites historiques s'effritent et disparaissent. Toute personne qui possède un paquet est invitée à le défaire et à en montrer le contenu. Dans ces conditions, il devient urgent de dissimuler le paquet au regard de l'occupant et de se couvrir à nouveau du haïk protecteur. Ici encore, il faut réapprendre une nouvelle technique, porter sous le voile un objet assez lourd, très dangereux, et donner l'impression d'avoir les mains libres, qu'il n'y ait rien sous ce haïk, sinon une pauvre femme ou une insignifiante jeune fille. Il ne s'agit plus seulement de se voiler, il faut se faire une belle tête de Fatma, que le soldat soit rassuré. Celle-ci est bien incapable de faire quoi que ce soit. Très difficile. Et les policiers qui interpellent, juste à 3 mètres de vous, une femme voilée qui ne semble pas particulièrement suspecte. Et la bombe ? On a deviné à l'expression pathétique du responsable qu'il s'agissait de cela, ou le sac de grenades, retenu au corps par tout un système de ficelles et de courroies. Car les mains doivent être libres, nues, exhibées, pressentées humblement et niaisement aux militaires pour qu'ils n'aillent pas plus loin. Montrer les mains vides et apparemment mobiles et libres est le signe qui désarme le soldat ennemi. Le corps de l'Algérienne, qui dans un premier temps s'est dépouillé, s'enfle maintenant. Alors que dans la période antérieure, il fallait élancer ce corps, le discipliner dans le sens de la prestance ou de la séduction. Ici, il faut l'écraser, le rendre difforme, à l'extrême, le rendre absurde. C'est, nous l'avons vu, la face des bombes, des grenades, des chargeurs de mitraillettes. Pour conclure, j'aimerais dire que France Fanon nous parle depuis sa discipline, qui est la psychiatrie. Il revient tout le temps à cette idée du portrait de la femme algérienne. On a l'impression qu'il s'agit le plus souvent des jeunes filles qui habitent dans les villes. On ne sait pas trop dans quel milieu elles évoluent, comment elles se sont jointes à l'insurrection et quelles ont été les conséquences, par exemple, dans leur famille. Et on sait peu aussi des autres femmes, celles qui ne sont pas jeunes, celles qui sont plus vieilles, celles qui sont mariées, qui ont des enfants, qui habitent à la campagne, dans les montagnes. Donc il y a une limite, et en même temps, ce qui est très enrichissant dans la manière dont il présente son analyse, c'est cette perspective dynamique de l'événement dans l'histoire, qui fait que c'est en fonction de comment se déroule la colonisation et comment se déroule l'insurrection, qu'on va voir apparaître, en fonction des exigences de la lutte et du combat, des nouvelles attitudes, des nouvelles conduites, des nouvelles modalités d'apparaître, et en particulier pour les femmes, des nouvelles manières, des nouveaux sens d'habiter leur corps, d'habiter leur territoire, leur ville. Comment elles vont s'en servir justement de ces symboles et de leur propre corps comme à la fois quelque chose, un bastion d'une certaine valeur et en même temps comme un moyen, un instrument pour répondre aux questions qui sont posées au jour le jour.
termine Radio Potlatch avec Minouche qui va nous lire un passage du Fou d'Elsa d'Aragon.
Toute figure murale et la crête solaire et le feston de la porte et ce réseau qui réduit l'espace et rend le monument raisonnable à la taille des respirations humaines. Toute floraison de la pierre et le narcisse en est jaloux comme la bouche est jalouse de la répétition des baisers. Jalouse, l'arcade parfaite au-dessus de l'œil de la femme. Toute mosaïque avec son étrange régularité des motifs. Comme si j'avais bleui de mes lèvres une chair également où saignent ici et là les traces de ma cruauté. Toute constellation céramique où les yeux prennent un plaisir plus grand qu'à la contemplation de la nudité. Et les salles sont de fausses portes et d'arcatures comme la peau du lézard, où les plafonds façonnés d'ombre écrivent là-haut dans une langue inconnue les secrets de fornication profondément cachés dans le cœur des dignitaires. Tout semble à l'instant lavé d'un meurtre avec la rapidité des esclaves. Et le jaune et le vert ont tant d'éclat que je baisse le regard. Ô beauté de marbre et de faïence où rien ne rappelle la luxure. J'ai tout loisir à la compliquer de fallacieuses géométries. Ces enlacements qui se font et se défont à plaisir, je puis les regarder devant tous sans qu'on rougisse. Et personne, après tout, ne songe à me soupçonner dans ma force et n'y voit mon étreinte et ma sueur. Comme le cuir parfait de l'homme cache les mouvements de l'âme et du sang dans le monde intérieur. Où l'écorce, dans son dessin, sait dissimuler l'arbre, et même l'arbre, ici secrètement imité, je puis le décrire à voix haute. Arbre qui n'est plus un arbre, avec l'ordonnance des feuillages. Qui ne fut jamais un oiseau ni la fleur parfumée. Je puis décrire ce cheminement de caresses vers le ciel comme des mains remontant la candeur des jambes. La gorge aux étoiles, renversée. Les épaules de nuages. Tout ce qu'il est licite de montrer ici dans l'élan de l'architecture. Je puis te décrire, ô mosquée, ainsi qu'une robe jamais revêtue, un voile abandonné, l'oubli de ce qui respire. Je puis te décrire à mon envie, et nul ne peut entendre à mes paroles le péché. Mais comment seulement effleurer la couleur de ton front? Comment parler de ton souffle ou ton pas, ma bien-aimée? Que dire qui ne soit aussitôt profanation, qui ne soit blasphème ou massacre? Offense, offense à la lumière, comment, un instant, prétendre à tracer par les mots ta semblance? Ô dissemblante, ô fugitive, ô toujours changeante et transformée, toi que rien n'a pu fixer dans mes yeux, ni la passion ni les années. Toujours neuve et surprenante, amour. Amour au portrait qui échappe aux traits de la parole et du pinceau. Comme la forme incernable du rire incernable, comme un sanglot. Rebelle autant rebelle, aux bras qui croyaient en serrer dans leurs limites musculaires. Et toute comparaison pêche de pauvreté s'il s'agit de dire ta fuite. Eau qui n'est point humide et ne laisse ni trace ni reflet. Souvenir sans la mémoire et blessure sans poignard. Or, s'il n'est point permis de dire la beauté vivante, où trouver l'accord des tons? À quoi se reconnaissent le sommeil? Un miroir. Un miroir pour l'oubli, pour la beauté troublante et pure de l'oubli. À celui qui craint de brûler, il ne reste que parler d'une flamme abstraite. Il ne reste au peintre que céder le pas à l'écriture, de droite à gauche, au fronton des fenêtres, à la frondaison du pilastre. Où le calame forme sur la blancheur un caractère de jet. Comme une chevauchée au désert, un profil bondissant d'armes brandies, et chaque lettre est un pied sur le sable, un départ de léopard, ou soudain, le déploiement d'une aile noire au-dessus de la poussière. Alors, je m'aperçois que je t'ai donné la place réservée à Dieu, car de tout temps, ici, régnait la prière et sa gloire. Et je l'efface de ton nom, fait ineffablement à la fois du sable et de l'aile. Comme un drapeau d'insurrection dans le soleil, comme une danse de fiancés sacrilège, comme une pulsation d'éternité. Je t'ai donné la place réservée à Dieu, que le poème à tout jamais surmonte les litanies. Je t'ai placé en plein jour sur la pierre votive et désormais, c'est de toi qu'est toute dévotion, tout murmure de pèlerin, tout agenouillement de la croyance, tout cri de l'agonisant. Je t'ai donné la place du scandale qui n'a point de fin.
Merci Minouche. Radio Potlatch se termine à 19h, donc c'est-à-dire 18h30 plus 30 minutes. On se retrouve le dimanche 30 octobre. À ce moment-là, nous aurons rendez-vous avec la mort à la veille d'Halloween. Et le blog pour les podcasts, c'est radiopotlatch.noblogs.org pour nous écrire potlatch@netcourrier.com ou bien vous nous adressez un courrier à 71 cours Édouard Vaillant, 33 000 Bordeaux, adressé à la Clé des Ondes. Ciao.
C'était une maison douce, une maison de bon aloi, juste ce qu'il faut de mousse répartie aux bons endroits, assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi, et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Ouvrait parfois sa porte à ceux qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, maison, tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Advint qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied, ça et là. À plusieurs on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte on l'enfoncera. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Sauvagement il pénètre. Crime n'a plus d'âme ni de nom, mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie, avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. D'ailleurs, une maison sage ne reste pas isolée. Celles qui sont au village se font toujours respecter. Quand on n'a pas de serrure, il faut avoir un gardien. C'est chercher les aventures que de fleurir son jardin. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Si vous passez par la route et si vous avez du cœur, vous en pleurerez sans doute, c'est l'image du malheur. Mais rien, pas même vos larmes, ne lui portera secours. Elle est loin de ses alarmes, elle est fermée pour toujours. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. J'ai raconté l'histoire de la maison violentée. C'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix. Même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, non, je n'invente pas, moi je dis ce que je dois.